Hein? Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque semaine. La révolution silencieuse des jeunes diplômés des grandes écoles. En fait, il s'agit d'un documentaire qui s'appelle Rupture, fabriqué par des jeunes, sorti en salle, mais de façon assez confidentielle. Un documentaire que tous les DRH des grandes entreprises devraient avoir vu pour comprendre ce que veut la nouvelle génération, ou plutôt ce qu'elle refuse désormais. Tourné de l'intérieur, il montre une génération lucide sur les enjeux environnementaux et sociaux et qui veut agir par ses choix professionnels. Ils sont ingénieurs, diplômés d'école de commerce ou de Sciences Po. Ils préfèrent vendre des soupes avec des légumes gaspillés des supermarchés plutôt que de tenir des objectifs business et satisfaire des actionnaires. La question n'est pas tellement combien sont-ils, mais jusqu'à quel point ils inquiètent les multinationales qui peinent déjà à recruter les talents de demain. Pour en parler, je reçois Arthur Gosset. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes diplômé de Centrale Nantes, une grande école d'ingénieurs, et vous avez réalisé contre toute attente ce film Rupture pour éviter peut-être de nouvelles disputes dans la cuisine avec vos parents, comme celle-ci.
Il faut que tu sois tolérant.
Il y a des plein de gens qui ne comprennent pas.
Parce que toi, tu as une pensée, il y avait un courant de pensée, encore une fois, je le dis avec respect, hein. On appelle ça des catastrophistes.
Non, ce n'est pas catastrophiste, non, c'est réaliste.
Non, mais aujourd'hui,
pour toi, c'est catastrophiste.
Chez les intellectuels, ça s'appelle comme ça.
Chez les scientifiques, ça ne s'appelle pas comme ça.
Alors, chez les scientifiques, c'est le courant de pensée, peu importe le nom, c'est le courant de pensée qui considère que si rien n'est fait, à terme, c'est fini, il n'y a plus rien à venir.
On le sait, ça.
On le sait. Moi, encore une fois, je suis fondamentalement, je crois, en l'être humain et sa capacité de rebond. Donc, laisse la place à ça.
Eh bien, dites donc, Arthur, c'est chaud dans la cuisine le soir chez vous. Vous êtes un intolérant catastrophiste, selon votre papa?
Alors à ce moment-là, ouais, je pense qu'il y a une part d'intolérance, et de mon côté aussi. C'est là, je suis dans la colère, je suis dans la rage face à l'incompréhension de mes parents et leur incapacité de voir finalement ce que moi je vois, l'urgence écologique, quoi, le fait qu'on soit déjà dans le mur face aux enjeux écologiques.
Depuis, il y a eu la pandémie, il y a eu les confinements, ouais. Tout le monde a eu le temps de réfléchir, de se calmer et de discuter. En tout cas, votre documentaire a reçu le prix coup de cœur du jury du Festival international du film écologique et social de Cannes 2021. Pour débattre avec vous, un jeune journaliste presque de la même génération que vous. Bonjour Iban Reiss.
Gentil. Bonjour Emmanuel.
Vous êtes journaliste et vous avez publié il y a quelques mois La fabrique des élites déraille chez Robert Laffont. Vous étiez venu nous en parler. C'est une enquête sur ces jeunes diplômés des grandes écoles, surtout préoccupés par leur carrière, leur entre-soi. Vous nous direz si vous croyez ou pas dans cette minorité écolo-agissante décrite dans le documentaire Rupture. Et puis en fin d'émission, comme chaque semaine, la chronique du psychologue Ibrahim Haïdara à Bamako, par enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, il sera question de couper le cordon avec ses enfants.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Arthur Gosset, vous avez suivi donc le parcours de six jeunes, leurs décisions difficiles, leurs ruptures souvent douloureuses pour un choix de vie en adéquation avec leurs convictions. Votre point commun à vous tous, c'est d'avoir été d'excellents élèves. Jusque-là, vous avez toujours répondu aux attentes de vos parents. Ouais. Faire partie de l'élite de demain.
Oui, bah je pense que c'est... En fait, on a été programmé pour ça, quoi. C'est cette pression sociale qui existe depuis qu'on est au lycée, même avant. Hein. On est des bons élèves, on a cette part d'intelligence qui est très, très minime, mais finalement, l'intelligence scolaire, on va dire, pour être des bons élèves. Hop, après, on va en prépa, on intègre des belles écoles. Et puis là, normalement, la voie toute tracée continue en intégrant un grand groupe avec un beau statut de cadre, une belle voiture de fonction, un beau salaire, etc. Et jusqu'à finalement ce qu'on se questionne sur réellement... Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ces métiers? Les formations qu'on a? Quel impact on va avoir en ayant ces métiers face à l'urgence écologique? Et je pense que c'est ce questionnement-là que moi j'ai cherché à
Mais il faut dire que vos parents, eux, ils ont connu le chômage de masse en France et que sortir d'une grande école, c'est la sécurité presque à vie.
Oui, c'est ça. En fait, c'est une sécurité. Et je pense que si nos parents, et même si la société nous pousse à intégrer ces belles écoles et ensuite avoir des beaux statuts... De salariés, quoi. C'est aussi par sécurité économique, par sécurité sociale, uniquement. Donc ça part d'une bonne intention. Et il y a du coup un conflit générationnel qui s'installe parce que finalement, on se retrouve avec des parents qui ne comprennent pas pourquoi leurs enfants qui ont fait de si belles études, qui sont destinés à un si beau travail, disent en fait finalement non, face à l'urgence écologique, je change de cap, quoi.
On écoute l'histoire d'Hélène, un extrait de votre documentaire Rupture, diplômée d'une grande école de commerce, qui a débuté dans un grand groupe de produits ménagers et d'hygiène.
Donc les premiers mois, j'étais hyper contente parce qu'en effet, j'avais un super salaire à la sortie de l'école, j'avais 22 ans, j'avais déjà ma voiture de fonction, mes parents étaient fiers de moi, j'étais vraiment un peu des étoiles dans les yeux. Et en fait, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était vraiment un job, on appelle ça un bullshit job. C'est un job dans lequel t'as absolument aucun impact environnemental, social, quoi que ce soit. J'ai toujours été plus ou moins engagée contre la surconsommation et je me suis rendu compte que j'agissais complètement dans le sens inverse.
Et t'as démissionné.
En fait, au moment où on m'a proposé de monter au siège, donc d'avoir une promotion interne et d'augmenter à la fois en salaire, machin, tout ça, et aussi en responsabilité. Donc là, à ce moment-là, j'ai dit, c'est fini, je ne peux plus faire à grande échelle ce que vous me demandez de faire, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai démissionné, j'ai quitté mon boulot et j'ai décidé de donner du sens à ma vie. Je pense que vraiment, le moment, c'est quand ils m'ont... en gros, l'année fiscale de l'entreprise, elle se termine en juin. D'une année à l'autre, ils ont toujours des objectifs de croissance. Fin avril, ils étaient en dessous du chiffre de l'année précédente. Et du coup, ils étaient obligés, pour juin, de faire du plus, quoi. Et donc, on a été obligés, nous, en tant que commerciaux, d'aller dans les magasins et de vendre des quantités astronomiques de produits. On savait très bien qu'ils n'allaient pas les passer, qu'ils allaient mettre des mois et des mois avant de tout vendre. En fait, on était juste en train de stocker toutes leurs réserves. Mais puisqu'il fallait que, d'ici à fin juin, on soit au-dessus de l'année dernière, on a été obligés de vendre un maximum de produits sans que ça fasse sens. Et moi, je savais très bien que ce que je faisais, même d'un point de vue business, d'un point de vue commercial, ça n'avait aucun sens. C'était juste pour que les actionnaires ils soient contents fin juin et que tous les objectifs soient atteints, quoi. Je me dis, c'est plus possible.
Iban Rice, vous avez publié un livre qui s'appelle « La fabrique des élites déraille ». C'est une enquête de près de 2 ans auprès d'étudiants de grandes écoles de commerce en France. Il y a HEC, il y a l'ESSEC, il y a l'EDEC. Vous êtes rentré dans les codes des étudiants. Comment vous entendez ce témoignage-là? Est-ce que ce sentiment de perte de sens, finalement, jusqu'à quel point il est partagé par les diplômés des grandes écoles dans les entreprises à l'heure actuelle?
Il est très parlant cet extrait parce qu'il montre que voilà, on suit un espèce de chemin depuis, tu l'as dit Arthur, depuis presque le collège en fait, et qu'à un moment donné on se dit mais en fait ça n'a aucun sens, et même les choses que cette étudiante a appris, je ne sais pas de quelle école elle sort d'ailleurs.
Elle sort de l'ISSEC, c'est une école
d'accord.
de commerce à Lille.
Ouais. Et ben même ce qu'elle a appris dans cette école de commerce, et ben elle ne l'appliquera pas quand elle va travailler dans un grand groupe, donc même elle, ses repères libéraux, ils sont totalement déboussolés, donc j'ai trouvé ça très intéressant. En fait ce qu'il faut se dire, c'est que ces étudiants-là, ils réalisent très rapidement que leur taf n'a plus de sens. Et donc, ils ont envie d'aller vers autre chose. Mais je trouve ça très courageux parce que, comme on l'a dit, il y a la fierté des parents, il y a la stabilité économique et il faut quand même en avoir dans le ventre pour se dire « je fais une croix sur un salaire, sur un CDI ». En France, aujourd'hui, c'est pas rien. Pour aller vers des choses qui vont être beaucoup moins stables, qui vont peut-être nous apporter plus sur le point de vue personnel, mais qui dans les yeux des parents, sera peut-être moins important et moins gratifiant.
Mais ça va à l'encontre de ce que vous décrivez, vous, dans votre livre. Vous décrivez des jeunes dans ces grandes écoles, une vie de fête, d'alcool, de sexisme, d'entre-soi. Est-ce que ça, ce que vous décrivez, c'est conciliable avec les préoccupations environnementales et les prises de risques pour leur carrière qui sont décrites dans le documentaire d'Arthur Gosset,
là
Rupture.
Là où je trouve que Rupture est très intéressant, c'est que ça donne la parole à une minorité, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important. Justement, c'est une minorité, je pense, qui va peser à l'avenir sur ces campus. On le voit d'ailleurs. Je reprends par exemple la nouvelle communication de l'ESSEC autour de son programme, qui est sortie il y a moins d'un an et que j'ai disséqué à la virgule près pour voir un petit peu sur quoi ils allaient communiquer. Et il y a énormément de passages sur l'écologie, sur la croissance verte, sur le fait d'être, d'aller dans ce sens-là. Bon, moi, si
de
vous
la
voulez...
démagogie pour plaire aux jeunes diplômés, aux futurs étudiants.
Clairement, exactement, les deux. Les futurs étudiants, parce qu'il ne faut pas oublier que ces étudiants-là sont d'abord des clients, je ne le rappellerai jamais assez. Alors, toi, tu as fait une école d'ingénieur, donc ce n'est pas forcément le cas.
Mais c'est payant quand même.
C'est payant quand même, mais c'est beaucoup moins cher.
C'est pas beaucoup.
Je crois que Centrale Supélec, j'étais sur le campus la semaine dernière, c'est à peu près 3 ou 4 000 euros.
Moi, je payais 500 euros par an.
Ah oui, voilà. Bon.
Ça va. C'est...
Au prorata des revenus des parents, c'est ça ou...
Je sais même pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des boursiers qui ne payent pas. Sinon, c'est 500 euros. Ouais. Tout le monde paye 500
on
euros.
On est très loin, évidemment, des tarifs.
HEC, c'est 15 000 euros. Voilà, une année en grande école.
De l'EM Lyon.
Exactement. Donc, si vous voulez, pour attirer ces nouveaux étudiants, il faut du sens, puisque le vert est à la mode. C'est terrible à dire, mais c'est quelque chose qui attire maintenant pour les jeunes étudiants. Donc, il a fallu se renouveler pour ces écoles-là, mais c'est de l'opportunisme total, je l'assume totalement, vraiment, j'assume ce que je dis, c'est de l'opportunisme le plus cynique possible.
Alors, est-ce que ça suffira à endormir les étudiants? On en écoute un.
Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur, en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation.
On vient d'entendre Arthur Gosset, c'est Clément Chouanne.
C'est Clément Chouanne, exactement.
Un de vos camarades d'école à Centrale Nantes, qui fait ce discours public.
Ouais. Alors, il fait ce discours au moment de sa remise de diplôme. On est en novembre 2018. À ce moment-là, il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup de sujets écologiques sur la table dans les grandes écoles. Il y a eu juste le manifeste étudiant pour un réveil écologique qui est sorti un mois auparavant, je crois. Donc, c'est vraiment, voilà, on rentre en 2018 dans ces sujets-là. Et Clément Chouanne fait ce discours en s'adressant, du coup, aux parents qui sont présents dans la salle, aux étudiants, aux enseignants.
Réaction. Et, quelle est la réaction dans la salle?
Il va faire le buzz en deux jours. Il fait plus d'un million de vues sur les réseaux sociaux. La réaction dans la salle, moi, j'ai pu échanger avec Arnaud Poitou, qui était le directeur de Centrale Nantes au moment où Clément Chouanne a fait son discours. Il m'a dit, sur le moment, personne ne s'y attendait. Parce que Clément Chouanne a fait le pitre pendant plusieurs minutes. C'est lui qui dirigeait la cérémonie. Donc il a sorti ça, vraiment personne ne s'y attendait et je pense qu'il a mis un froid glacial dans la salle et en fait après il y a eu beaucoup d'admiration et finalement il a dit ce que beaucoup pensaient et ce que nous étions beaucoup à penser déjà aussi à Centrale. Il a pu mettre des mots là-dessus et c'est aussi pour ça que son discours a tant parlé. Le directeur sur le moment il l'a pris, Clément s'adressait au directeur en disant Monsieur le directeur je pense que vous n'êtes pas à la hauteur des enseignements que vous fournissez à Centrale Nantes. Donc sur le moment je pense que le directeur l'a mal pris. Et puis après, il a réalisé qu'en fait, c'était un mouvement de masse qui était en train de naître et qu'il ne pouvait pas passer à côté. Ouais. Quoi.
Et on n'était qu'en 2018.
Donc,
bien avant, évidemment, la pandémie qui a aussi quand même contribué à des prises de conscience. Changer les contenus d'enseignement sous la pression des jeunes ou répondre aux demandes des entreprises et du marché, est-ce que c'est ça, la situation des grandes écoles à l'heure actuelle, entre le marteau et l'enclume?
Je pense que oui. Je pense que c'est, il y a une, les grandes écoles aujourd'hui ont la nécessité de changer en profondeur les cursus pour que dans chaque cursus, dans toutes les formations, elles intègrent les enjeux écologiques et sociaux. C'est-à-dire que voilà, vous fassiez une formation dans le bâtiment demain, que vous puissiez vous former et que tous les enseignements que vous allez recevoir dans le bâtiment incluent également les enjeux écologiques et sociaux. Vous n'allez pas uniquement vous enseigner le béton, par exemple. L'usage du béton qui est un très gros polluant.
Comment ne pas mettre de mauvaise humeur les entreprises qui, d'ailleurs, pour certaines, financent des chairs?
C'est là tout l'enjeu aussi. Au moins, il va falloir que les entreprises changent de cap. On ne peut plus rester dans le greenwashing comme ça. Il y a un moment,
En fait, c'est un effet domino aussi. C'est-à-dire que, Arthur, tu as raison, je pense que les cursus vont changer. Mais il y a aussi la vie sur les campus qui va changer. Il y a aussi les relations entre les étudiants qui va changer. Quand tu parles de responsabilité écologique et sociale, moi, je me suis un petit peu plus concentré sur le social que sur l'écologie. Mais c'est lié, en fait. Quand on voit que la libération de la parole sur les violences sexistes et sexuelles se fait maintenant sur les campus des grandes écoles de commerce... Moi, je compare vraiment ça à l'écologie. Maintenant, Clément Chouanne, et j'ai vu l'extrait du coup de ton film, il n'est pas moqué pour ce qu'il va dire. Peut-être qu'il y a quelques années, il aurait été moqué, on l'aurait traité de hippie, de babacool, etc. Maintenant, il n'est plus moqué. Et quand on parle de ça, moi, ça fait appel à un exemple qui est concret dans mon livre. Il y a une génération d'étudiantes, je les appelle mon carré magique parce qu'elles sont quatre dans ces trois écoles, à avoir mis le nez de la direction dans ce qu'elles faisaient et à faire évoluer les mentalités. Parce que, alors je prends l'exemple des Méduses à l'ESSEC, c'est une association féministe fantastique qui fait évoluer les mentalités en confrontant juste la réalité aux directions. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Et c'est pas forcément la direction, c'est que ça, c'est un effet domino qui part des étudiants. Les directions se rendent compte qu'il faut changer et les entreprises derrière. Oui. Pour moi, je vois la chaîne comme ça.
Une évolution, mais qui se fait toujours en monde clos, dans l'entre-soi social.
Et oui, mais demain, vous savez que c'est ça qui va. Enfin, ça part du haut, en fait. Donc, c'est-à-dire que si ces étudiantes-là se préoccupent de ces problèmes, les directions le feront, les entreprises le feront, et le monde du travail sera peut-être plus sain, en tout cas en termes d'impact social. Peut-être qu'en écologie, c'est pareil.
Non, mais en fait, c'est un entre-soi terrible. Malheureusement, aujourd'hui, à la tête de ces grands groupes, pour le rappeler, on a 40 grands groupes et leurs filiales qui sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est énorme. À la tête de ces grands groupes et de ces filiales, on retrouve majoritairement des hommes blancs qui sont passés par des très belles écoles, Polytechnique, HEC, l'ESSEC, Centrale. et qui, face à l'urgence écologique, ferment les yeux, sont dans un déni total, pour la plupart. Parce qu'il y a malheureusement l'impossibilité de concilier la recherche de profit et l'impact écologique.
Ou au mieux se disent, on va se faire plein de fric avec la croissance verte, voilà. Quand même. Alors, parce que ça aussi, il y a un certain optimisme avec ça.
Cherchent à concilier les deux et en fait, finalement, restent à côté de la plaque aussi parce qu'il y a une pression très forte des actionnaires. On l'a encore vu avec Emmanuel Faber qui s'est fait sortir de Danone parce qu'il avait la volonté de porter Danone vers un monde plus durable, quoi. Donc il y a une pression telle.
Danone qui a une chaire à HEC, il faut le préciser.
Danone est cher à HEC.
Croissance verte. Développement durable.
Croissance verte, on peut quand même s'interroger sur, sur l'oxymore que c'est. Non, mais croissance verte, c'est juste ces deux notions qui sont totalement impossibles à concilier.
Bon, alors ça, c'est un autre débat, mais bien sûr, on va y revenir.
C'est un joli terme marketing.
En tout cas, diplômé de Sciences Po, ça peut conduire au militantisme, comme chez Extinction Rebellion, qui mène des actions coup de poing pour dénoncer le marketing, la surconsommation et interpeller les clients venus faire leurs courses.
Ok, c'est parti. On se rend devant le... Viens avec moi, tu prends la sono.
Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 novembre et c'est le Black Friday. C'est le jour mondial de la surconsommation. Nous sommes des collectifs et des associations qui luttons contre ce Black Friday. Nous sommes des mouvements pacifistes et non violents. Donc je tiens à assurer les personnes qui essayent d'assurer la sécurité ici que nous n'allons faire aucune action, ni de blocage, ni de violence ou de dégradation. Donc on va essayer de mettre en place une assemblée citoyenne pour discuter ensemble de est-ce que oui ou non on a besoin d'avoir des magasins aussi grands que celui de Primark dans nos villes. Consomme, travaille et ferme ta gueule. C'est ça le message qu'on donne aux jeunes. Les slogans ne sont pas des mots criés avec insolence par une jeunesse en manque de reconnaissance, comme veulent se convaincre certains. Ce sont les symboles d'un désaccord profond avec un modèle de société voué à disparaître. À celles et ceux qui nous demandent d'agir à notre échelle en nettoyant les plages, nous répondons qu'agir à notre échelle, ce n'est pas agir sur les conséquences du problème, mais bien agir sur les causes. Aujourd'hui, 25 entreprises et leurs filiales sont responsables de 70% des émissions de CO2. Nous sommes les générations à venir, celles dont vous parliez il y a 20 ans. Nous sommes là, bien vivants, et nous espérons bien le rester. Face à la folie destructrice symbolisée par l'existence même d'un jour comme le Black Friday, nous sommes celles et ceux qui prenons un retour à la raison. Merci.
Voilà un extrait de votre documentaire Rupture, Arthur Gosset. Je précise que vous êtes un jeune diplômé d'école d'ingénieur hein, et que ça, c'est vraiment un documentaire qui est tourné de l'intérieur, exclusivement avec des jeunes. On n'est pas là pour nettoyer les plages, mais pour vous mettre la tête dans le goudron. En gros, c'est ce que vous dites aux entreprises, plus ou moins.
Oui, je pense que oui. On sait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on sait qu'on est entendu de par ces grandes entreprises aussi parce que les comités de direction sont passés par les mêmes écoles que nous. Et du coup, là, pour le coup, ils nous écoutent et se rendent compte qu'ah oui, il y a une minorité, mais qui devient petit à petit pour moi de plus en plus présente quand même, qui se questionne sur les travails pour lesquels ils sont formés et dans ces grands groupes-là. Du coup, il est temps qu'on adapte nos...
Alors évidemment, enjeux, vous avez l'urgence climatique avec vous. Vous avez aussi la sortie du Covid et, enfin, on espère, et la reprise économique mondiale qui crée une pénurie de main-d'œuvre qualifiée qu'on n'a pas connue depuis longtemps, un chômage pour la France en tout cas au plus bas depuis plusieurs années, me semble-t-il, de mémoire. Je crois que c'est depuis 2000 d'avant la crise. Hein. Il faudrait revérifier, mais ça veut dire qu'à l'heure actuelle, que pensent les DRH de ce qui se passe eux qui sortent, comme vous le disiez, des mêmes écoles, de la conjoncture économique, de la conjoncture environnementale.
Alors moi, j'ai pu échanger avec des DRH de grands groupes. Pour le coup, moi, de ce que je vois, après peut-être que Ivan, tu diras autre chose, mais ils sont conscients de ce qui se passe, pour moi. Ces DRH savent très bien qu'ils ont de plus en plus de mal à recruter, à retrouver de la main-d'œuvre, à recruter et puis surtout à garder en leur sein ces jeunes talents, si on peut dire, jeunes talents entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le greenwashing ne fonctionne plus. Donc s'ils vont vendre sur le papier un très beau poste dans une belle boîte, etc., le jeune va arriver ou la jeune va arriver, ça ne lui convient pas, elle se rend compte que ça n'est pas aligné avec ses valeurs, elle ne reste pas.
Parce que vous êtes surinformé aussi aujourd'hui.
Bien sûr, exactement.
Il y a quelque chose moi, que j'observe quand tu parles, Arthur, c'est que moi, je suis entouré de gens qui ont fait des grandes écoles et qui, avec le Covid, se sont dit « Mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette vie ?» et qui sont partis à Nantes d'ailleurs. Mais j'ai un ami en Angleterre aussi qui a déménagé dans la campagne et qui a maintenant un petit cottage alors qu'il bossait pour un énorme groupe. Enfin, cette quête de sens, elle est maintenant, elle est à la mode et c'est tant mieux d'ailleurs. Juste quelque chose sur laquelle je voulais revenir. Regardez les critères des meilleurs classements des meilleurs classements des écoles de commerce mondiaux. Le classement le plus influent, c'est celui du Financial Times. Moi, j'ai disséqué ces critères-là. Les critères les plus importants, ce sont quoi ? Le salaire à la sortie d'école, l'employabilité, la productivité, ce ne sont que des choses mais ultra libérales. Il n'y a rien sur le sens, il n'y a rien sur le bien-être des étudiants pendant leurs études, il n'y a rien sur la vie de campus, il n'y a rien sur le développement personnel. Ce ne sont que des données chiffrées parce qu'il va falloir faire plaisir aux actionnaires. Donc à un moment donné, ce sens-là, on ne le trouve plus.
Oui, sauf que L'Oréal faisait encore partie, il n'y a pas si longtemps, des entreprises les plus attractives pour les diplômés des grandes écoles, me semble-t-il.
C'est vrai.
Je crois que c'est toujours le cas.
Mais vous avez raison de dire que le Covid, possiblement va changer ça.
Ouais, à voir.
À voir.
Le groupe Vinci, on l'entend dans le documentaire, vous en discutez à un moment en débat avec d'autres jeunes, Arthur Gosset. Le groupe Vinci est un des leaders mondiaux du BTP, ne jure que par les polytechniciens pour renouveler son top management. Sauf que là aussi, ça devient un petit peu plus compliqué.
Oui, c'est ce que je disais. Je pense qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont de plus en plus de mal à recruter, à garder les emplois, à garder leurs salariés. Et j'espère que c'est ce qui va pousser ces entreprises à changer de cap aussi, clairement. Pour moi, c'est un levier fort. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans la rupture. Il faut reprendre la communication, leur expliquer. Et c'est ce que font certaines associations. On peut parler notamment de Pour un réveil écologique, qui est une super association, celle qui a lancé le manifeste étudiant Pour un réveil écologique. Cette association-là travaille main dans la main avec les industriels, avec les grandes entreprises, pour leur expliquer voilà, quelles sont les attentes des jeunes diplômés. Et voilà comment vous allez de nouveau nous séduire et avoir de la main-d'œuvre, en fait.
Il y a un collectif d'étudiants et de diplômés de Polytechnique qui, avec des organisations écologistes d'ailleurs, font barrage à l'installation sur le campus de Saclay d'un centre de recherche de Total Energy. Alors, c'est bien sûr une minorité par rapport à l'ensemble de l'école Polytechnique, mais qui pèse très lourd. Toute la question, est-ce qu'on peut se passer des multinationales pour inventer les énergies les plus vertes pour demain ? Effectivement, ça reste une vraie question. On écoute une des anciennes élèves de l'IX.
Moi, ce que j'en tire, c'est super épanouissant, en fait, de juste réaliser son rêve, inventer son propre métier, inventer sa propre vie, sortir du chemin qu'on vous a tracé là à l'IX, que vous irez travailler dans l'industrie, que vous serez des directeurs, etc. Juste... inventez votre vie, faites ce qui vous fait vibrer. Et puis surtout, par rapport à l'urgence climatique qu'il y a, je crois que le modèle de société qui a été construit par nos prédécesseurs, il montre clairement ses limites aujourd'hui, notamment d'un point de vue écologique. Et si vous ne trouvez pas votre place dans les entreprises qui existent aujourd'hui, c'est normal, c'est sain. Et puis allez créer la vôtre, quoi. Inventez votre vie.
Dans l'entreprise dans laquelle je travaillais avant, on essayait d'accompagner les entreprises sur leur chemin pour réduire leur impact négatif. Et en partant, je leur ai dit, vous continuez à les accompagner et moi, je vous attends à l'arrivée. Parce que moi, c'est là-bas que j'ai envie d'être, en fait, dans la construction vraiment du monde de demain, par en bas.
En même temps, ça pose aussi beaucoup de questions en termes de sécurité financière, en termes de... Voilà, on nous a toujours appris à prendre soin de notre CV. Là, ton CV, il va ressembler à rien, tu vois. Et... enfin, c'est assez vertigineux de se lancer dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on t'a promis depuis des années, quoi. Donc à la fois, je pense que ça fascine, ça inspire, ça attire. En même temps, ça fait peur.
Moi, je pense pas re-rentrer dans le système un jour, quoi. C'est pas possible, tu prends trop goût à... puis même de travailler moins aussi, parce que tu vois, de devoir travailler tous les jours... comme des fous de 9h à 18h. C'est aussi ça qui alimente un système où tout va trop vite, où on produit toujours plus pour consommer toujours plus et prendre un petit peu de recul par rapport à ça, d'accepter de ralentir et de garder plus de temps pour rêver, tu vois, pour créer, prendre soin de toi, t'écouter, passer du temps en famille, tout ça. C'est ça aussi qui est important dans la vie, plus que d'avoir un métier, un travail.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
7 milliards de voisins
et la planète se barre.
7 milliards de voisins, la révolution silencieuse des diplômés des grandes écoles, à l'image de votre documentaire Arthur Gosset, Rupture. Vous êtes un diplômé, vous êtes ingénieur, diplômé de Centrale Nantes, et vous êtes avec nous en direct. Iban Rice est également avec nous, journaliste, il a publié La fabrique des élites déraille, plutôt pour montrer au contraire des élites qui sont encore très confortables dans leur entre-soi et qui ne se soucient pas tellement du bien commun. Donc on affronte vos deux visions de la réalité des grandes écoles. On vient d'entendre Aurélie, diplômée de l'école polytechnique, ouais. Donc voilà, une élève très brillante, l'X hein, pour les intimes, et qui est en rupture totale. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, Aurélie, avec son CV un peu problématique?
Alors Aurélie, du coup, a donc diplômée de polytechnique, elle a monté le premier village de tiny house de France. Les tiny house, c'est des petites maisons écologiques en bois, donc vous allez le découvrir dans le documentaire. Aujourd'hui, donc, elle garde ce projet-là, qui est assez présent toujours. C'est un village qui est à Saint-Brieuc.
En Bretagne.
Donc en Bretagne, exactement. Et à côté, là, elle se forme actuellement sur la presqu'île de Gien pour devenir prof d'acro-yoga. Donc c'est un type de yoga, voilà. Et puis plein d'autres projets en parallèle. Elle a aussi monté une entreprise justement de redirection écologique pour accompagner les entreprises dans leur redirection écologique, parce qu'il y a aussi des choses à faire à ce niveau-là.
Mmh. Elle est tentée par la politique aussi.
Elle s'est engagée en politique locale. Mmh. Exactement, en politique locale, puisque, comme l'explique aussi dans le film, c'est un levier énorme d'action, la politique locale. Hein, 70% des mesures se jouent au local, donc c'est énorme.
Moi, je suis pas sûr qu'on s'affronte avec Arthur, parce que j'ai l'impression quand même que...
Non, en tout cas, vous avez sur le fond, vous êtes d'accord, ouais. Mais vous avez montré une réalité très différente des diplômés des grandes écoles.
C'était que dans les grandes écoles de commerce. Là où je pense que les écoles d'ingénieurs sont un petit peu plus en avance, et j'ai un exemple hyper concret qui me vient en tête, c'est que j'étais donc sur le campus de Centrale Supélec la semaine dernière, parce que pour la première fois à ma connaissance en France, un directeur de grande école, un directeur d'une école d'élite, a rendu public un rapport qu'il avait lui-même commandé sur l'ampleur des violences sexistes et sexuelles sur son campus. Mais vous imaginez le courage qu'il faut pour faire ça. Moi, j'ai enquêté pendant à peu près 2 ans sur ces 3 écoles, et aussi sur l'EM Lyon et sur Sciences Po Toulouse, etc. Mais ce sont des choses dont on a honte, qu'on cache sous le tapis, qu'on va même cacher, mais à tout prix. Moi, on m'a menti pendant 2 ans. Les directions des écoles HEC et SAEC-EDEC m'ont menti pendant 2 ans. Le nouveau doyen d'HEC, Éloïc Perrache, continue à suspendre des procédures pour viol parce qu'il a peur que ça sorte. Et là, on a M. Soubéran, le directeur de Centrale, qui dit bah non, maintenant, voilà, on prend le taureau par les cornes et on va essayer de faire en sorte qu'à Centrale Supélec, pour les étudiants, ça ne soit plus le chaos, ça ne soit plus la jungle. Donc je pense, honnêtement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Arthur, mais je pense que les écoles d'ingénieurs sont un petit peu plus en avance, ouais, que les écoles de commerce qui, elles, pour l'instant, ne pensent qu'au salaire en sortie de diplôme, simplement.
En même temps, s'attaquer au problème de sexisme, est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de planquer sous le tapis les problématiques des carrières des jeunes diplômés face aux enjeux environnementaux?
Je sais pas où on est Centrale Supélec sur les enjeux environnementaux. J'entendais que sur le campus de Saclay, il y avait du coup des bâtiments qui sont sponsorisés.
Mais ça, c'est pas tout à fait une histoire de sponsor.
C'est un bâtiment total qui a été créé du coup à côté du campus, finalement, sous la pression des étudiants.
D'accord. Donc je sais pas, mais qu'est-ce que tu en penses, Arthur? Est-ce que vous êtes en avance par rapport aux écoles de commerce?
Je pense que oui. Je pense que sans prétention, il n'y a pas du tout de prétention ou quoi. J'espère vraiment que les écoles de commerce évolueront aussi. De ce que je vois autour de moi aussi, effectivement, les écoles d'ingénieurs sont un peu en avance. Peut-être parce qu'en école d'ingénieurs, on apprend la science, en fait.
C'est ça.
On est formé pour faire confiance à la science. Et quand vous regardez la science, il suffit d'ouvrir un peu les yeux. Vous lisez les articles scientifiques, les rapports du GIEC, etc. Voilà, on comprend.
C'est une réalité qui facilement saute plus à vos yeux, tu veux dire.
Quand votre père vous accuse d'être catastrophiste, vous dites non, c'est la réalité scientifique qui est décrite.
Exactement. Et c'est là où, finalement, en fait, à partir de 2018, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, vous avez des étudiants qui se rassemblent entre eux, et j'en faisais partie, pour justement parler entre eux, échanger entre eux de ce qu'ils lisaient dans la presse scientifique. Et on revient en cours et on a une réalité qui est tout autre, où on va nous prôner voilà, l'usage du béton. Donc on se dit, mais les cours ne sont pas du tout à la hauteur, en fait. On a cette urgence d'un côté, comment est-ce qu'on peut être formé maintenant, tout de suite, urgemment, pour faire face aux enjeux planétaires écologiques?
Alors, en même temps, les problèmes, ils sont encore plus complexes que ce que vous décrivez. Quand Lafarge-Holcim finance une chaire à Polytechnique Lausanne, une excellente école d'ingénieurs en Suisse, pour financer des recherches sur les nouveaux matériaux de construction, qu'est-ce que c'est? C'est du greenwashing à vos yeux? Ou c'est l'avenir, parce qu'on ne pourra pas se passer des multinationales pour revoir la copie?
Je pense que je pense que ça va être compliqué de s'en passer. Pour être honnête, c'est des machines, même d'un point de vue financier, qui pèsent énormément et qui ont, en fait, elles ont les moyens d'avoir un impact incroyable. Elles ont les moyens humains et financiers de décider du jour au lendemain de changer de cap et de mettre au cœur de leurs priorités l'impact plutôt que la rentabilité. Maintenant, donc pour moi, il faut travailler avec elles, justement, main dans la main, mais il faut leur faire comprendre l'urgence. Est-ce que c'est du greenwashing de s'installer à Polytechnique Lausanne? Peut-être que oui. Peut-être que c'est. Je pense qu'il y a une volonté toujours d'attirer les étudiants. Après, les étudiants, vous ne les convaincrez pas comme ça, ce n'est pas si simple. Je parlais avec le directeur de Centrale Nantes, donc c'est M. Jean-Baptiste Avrier, qui m'expliquait cette année, vous avez 70% des diplômés de Centrale Nantes qui s'installent dans des PME ou des start-up. Il y a 10 ans, c'était l'inverse. On avait 70% des diplômés qui allaient dans des grands groupes. Alors, ça reste minoritaire, hein, parce
Qui dit PME ou start-up ne dit pas en accord avec ses propres valeurs ou les enjeux environnementaux.
Non, mais en fait, il y a quand même un changement de paradigme où, d'un point de vue social, il y a peut-être moins de reconnaissance aujourd'hui d'aller dans des grands groupes plutôt que des petites entreprises. Mais effectivement, ce n'est pas parce qu'on va dans des petites entreprises qu'on a plus d'impact. Je pense qu'il y a cette volonté de revenir à des petites structures pour justement peut-être mieux maîtriser son impact.
Avoir plus de poids, bien sûr.
Ouais. Ouais, et voilà, ouais.
Est-ce que Aurélie qui dit « moi, je ne reviendrai pas en arrière », ça veut dire que les grandes entreprises ont perdu un talent comme celui d'Aurélie, une polytechnicienne. Est-ce que demain, les grandes entreprises retrouveront ces talents sur leur chemin, peut-être en tant que consultants, leur demanderont des conseils pour leur transition écologique ou c'est perdu à jamais et il va falloir faire autrement pour le recrutement?
Moi, j'espère clairement qu'on continuera de travailler main dans la main, que les talents continueront de travailler main dans la main avec ces entreprises.
Ah bon, donc vous n'êtes pas dans la rupture finalement?
Si, mais parce que moi, je suis dans la rupture parce que j'ai envie que ces entreprises changent, en fait, qu'elles s'adaptent. Et tant qu'elles ne s'adapteront pas, effectivement, les talents diront « mais on ne travaille pas chez vous et on ne fait rien avec vous ». Aujourd'hui, c'est la réalité.
Il y a une volonté aussi de ne pas avoir une vie 9-to-5, comme on dit, une vie de bureau plan-plan, et le télétravail aussi a bousculé tout ça. C'est-à-dire que les gens ont envie de bosser d'où ils veulent, un peu quand ils veulent aussi. Je pense qu'on va vers là, mais...
Oui, alors 9-to-5 ou 9h à 18h, comme elle le dit, Aurélie, c'est qu'elle décrit comme un monde de fou, comme une vie de fou, ça fait sourire quand même, hein. Surtout pour quelqu'un qui a fait les classes préparatoires et qui a dû travailler beaucoup plus.
Bah, c'est comme ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils sont programmés et depuis le collège, tu sais qu'il ne va pas falloir déconner une seule seconde pour arriver à cet objectif-là. Donc, encore une fois, je le répète, je trouve que c'est courageux. Et vous savez, Emmanuel, on se retrouvera dans quelques années, si vous voulez, pour une émission bilan. Et je pense que la politique de beaucoup d'entreprises du CAC 40 aura changé. J'en suis sûr et certain.
J'espère.
Alors, en attendant, il y a quand même les jeunes, leur CV atypique et puis l'épreuve du marché. On écoute Hélène qui a quitté les produits d'hygiène dans la grande distribution pour s'intéresser au gaspillage alimentaire, faire des soupes avec des légumes invendus des supermarchés. Malgré son diplôme de grande école de commerce, eh bien, ce sont les larmes qui l'attendent au bout du chemin.
J'ai l'impression que j'ai trouvé de faire les choses bien et tout, et qu'en fait c'est juste un rêve, mais que j'ai l'impression que je suis en train de rêver, que je suis en train de vouloir faire des beaux projets et tout, mais qu'en fait j'ai pas les pieds sur terre, tu vois. J'ai l'impression que je suis complètement déconnectée de la réalité et que là je suis en train de retomber dedans et que je suis en train de me rendre compte qu'il y a plein de choses que j'ai pas pris en compte et que genre ce projet c'est trop difficile, tu vois.
Voilà. C'est dur quand même, non?
Ouais, c'est dur. Bah, en fait, il faut réinventer sa place dans la société. Il faut réinventer sa place dans la société et c'est pas simple, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est des mois et des mois de cheminement, de tâtonnement. Il faut trouver l'équilibre financier aussi, c'est une réalité, c'est difficile. Il faut trouver l'équilibre avec son entourage pour que l'entourage comprenne. C'est aussi ce que je filme dans le film. Hein. On a certains entourages qui vont considérer que c'est un déclassement social que de refuser ces hauts postes.
On la voit finalement, elle se lance dans une entreprise de confiture. Hein. Ouais. Est-ce qu'on lui a payé une école de commerce aussi coûteuse pour mettre en pot des confitures? C'est toute la question.
Il y a aussi ça. Des confitures peut-être.
À quel prix elles sont vendues? Et puis il y a Aurélien aussi qui a la pression de ses parents. On ne t'a pas payé Sciences Po pour aller bloquer des magasins.
Maxime, oui.
Pardon, Maxime.
Non, il n'y a aucun problème. Effectivement, voilà. Il y a aussi la pression des parents. Quand on est passé par des écoles de commerce, Iban le sait mieux que moi, ça coûte cher. Pour beaucoup, pour certains, ils ont pu faire un prêt. Pour d'autres, il y a la pression des parents. Mais pour donner un exemple, je vais terminer là-dessus, très simple, pour vous dire à quel point c'est vital, en fait. Et c'est vital de trouver une place dans la société qui soit en accord avec nos valeurs. J'ai un ami diplômé d'Audencia, avec un prêt étudiant sur le dos, 40 000 euros de prêt étudiant.
Grande école de commerce.
Grande école de commerce à Nantes, qui décroche un job à Genève dans une boîte de conseil. Bon, le job qui sur le papier devait être sympa, en RSE, etc.
Responsabilité sociale des entreprises.
Pardon, voilà, je précise, responsabilité sociale des entreprises. Donc toujours assez engagé, quoi. Pour lui, il s'est dit, bon, je vais faire l'effort, je vais travailler là-bas pendant un an, deux ans pour rembourser mon prêt. Il y allait, il a démissionné au bout de deux jours. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il travaillait pour des grands comptes et qu'en fait, finalement, le job n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'il imaginait. Et que c'était inconcevable pour lui de passer une année de sa vie à mettre de l'énergie à un endroit où finalement, ça l'éloignait ou alors il n'allait pas du tout avoir de l'impact. Donc il a démissionné avec le prêt sur le dos.
Et comment il va rembourser ?
Eh bien, c'est la question. Comment est-ce qu'il va faire ? Ben là, il travaille, il a un petit job de serveur à la frontière franco-suisse. Voilà. Et ça va, et c'est du tâtonnement, mais c'est... quand on voit l'urgence, on ne peut pas rester les bras croisés.
Et quand on est diplômé de Polytechnique, on a aussi une obligation de travailler dans la fonction publique ou sinon de rembourser une forte somme qui a été investie par l'État, puisque Polytechnique, c'est pas payant. Non seulement c'est pas payant, mais on est payé.
On peut refuser d'être payé pendant la formation et du coup, on n'a rien à rembourser. Ça, c'est possible depuis quelques années maintenant. Et je crois d'ailleurs que c'est le choix qu'a fait Aurélie.
Pour s'imaginer un petit peu la déconnexion quand même quand on parle de ces écoles-là. À Audencia, je ne sais pas quelles sont les associations les plus puissantes, mais à HEC, moi, ça m'est beaucoup amusé. Ils ont une association qui s'appelle Croisière Caraïbes, dont le seul but est de faire du coup une croisière dans les Caraïbes. Et donc, c'est quelque chose qui est accessible aux étudiants les plus riches, puisque je crois que c'est 4 ou 5 000 euros pour 10 jours de voyage. Ils vont d'ailleurs faire un repérage avant la croisière, qui est donc une autre croisière.
Mais comment s'affrontent ces deux plaques tectoniques, là le réchauffement climatique et ceux qui veulent faire la croisière dans les Caraïbes, un même campus.
Il y a des étudiants. Là, dernièrement, après le Covid, il y a eu une lettre ouverte qui a été écrite par un étudiant assez courageux à HEC. Qui, encore une fois, c'était une lettre ouverte pour mettre la direction au pied du mur. Donc, moi, je pense pas que ça soit, que ça vienne facilement de la part des directions, ces changements-là. C'est des associations étudiantes, ce sont des révélations médiatiques qui font que ça avance. Elles s'affrontent mal, c'est assez violent. Il y a même des étudiants qui quittent les campus. Toi, tu parlais de ton ami qui a quitté sa boîte. Moi, j'ai des exemples d'étudiantes, surtout, qui quittent ces écoles-là au bout d'un an, qui ont fait une prépa littéraire et qui sont allées à HEC parce qu'elles ont eu HEC au concours et qu'il faut bien faire une école.
Elles étaient brillantes.
Mais c'était pas forcément le premier choix. Et au bout de 6 mois, elles se disent, mais je vis un enfer sur le campus. Je suis une proie pendant les soirées. Je vais être agressée si ce n'est pire. Je quitte ces écoles-là. Et derrière, elles se recyclent dans des choses un peu plus vertueuses et moins obsédé par le capital. Donc, elles s'affrontent de façon assez violente, en fait.
Un jeune bachelier aussi figure dans votre documentaire Rupture, Arthur Gosset, très bon élève. Lui, il refuse carrément de faire des études supérieures pour apprendre à cultiver la terre.
Donc, lui, il a décidé, effectivement, très bon élève jusqu'au lycée, finalement. Il ne voulait même pas passer le bac. C'est ses parents qui l'ont poussé pour passer le bac. Et en fait, pour lui, la priorité, c'était de revenir à la base, de réapprendre la base. Donc, les métiers manuels, la terre, voilà, comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on produit ce qu'on mange. Et donc, finalement, il décide de se former, de s'auto-former en maraîchage, en utilisant un principe qui s'appelle le woofing, qui, en fait, consiste à aller bénévolement dans des fermes de maraîchage et de travailler bénévolement en échange d'être nourri, blanchi, logé et surtout d'apprendre de la part des maraîchers. Voilà, donc c'est de ce qu'il a décidé de faire et aussi ensuite il poursuit en ce moment son auto-formation en se formant dans l'éco-construction. Il est d'une maturité exceptionnelle et d'une bienveillance et même aujourd'hui il est rassuré puisqu'il a plusieurs personnes qui lui ont proposé déjà un travail à l'avenir alors même qu'il n'a pas de diplôme, juste le bac. Donc voilà, comme quoi on peut trouver aussi sa place en sortant finalement du parcours un peu tout tracé.
Ouais, une échelle de valeur qui est en train d'être bouleversée. Et vous, Arthur Gosset, vous en êtes où dans cette révolution silencieuse ?
Alors, moi, j'ai une grande passion...
Diplômé de l'école d'ingénieurs Centrale Nantes.
Grande passion pour le monde de l'image, pour le monde du documentaire. J'aimerais à l'avenir faire d'autres documentaires aussi avec Hélène, ma copine, qui m'a aussi beaucoup aidé, donc qui est dans le film et qui m'a beaucoup aidé pour la réalisation de celui-ci. Et on aimerait tous les deux, à l'avenir, faire d'autres films sur des sujets aussi sociétaux, peut-être moins élitistes, disons, s'ouvrant à d'autres horizons. Et on a aussi plein de projets, plein de beaux projets qui nous attendent dans le monde aussi, notamment de l'artisanat, parce qu'on est bien passionné par l'artisanat, donc on verra. On se laisse un peu porter pour l'instant, plein de portes qui s'ouvrent. Et pour l'instant, bien sûr, on est à fond sur la diffusion du film, Donc si d'ailleurs ceux qui nous entendent souhaitent organiser une projection, vous avez toutes les infos sur le site rupture avec un s-le-film.fr. Voilà. Et partout dans le monde d'ailleurs.
Eh bien écoutez, c'est tout le bien qu'on vous souhaite et bonne chance à vous tous. Arthur Gosset, donc le documentaire s'appelle Rupture. Il est aussi à télécharger pour les abonnés de la plateforme spicy.com. Qui n'est pas tout à fait le modèle Netflix,
non,
je crois.
Exactement, c'est une plateforme donc Spicy, S-P-I-C-E-E, indépendante, qui soutient des docs engagés et 100% indépendants. Ouais. Et on espère d'ici prochainement, disons, diffuser aussi le film en libre accès, quoi, par le biais d'autres diffuseurs. Voilà.
Et vous êtes aussi contre Netflix, donc.
Ben disons que ce n'était pas forcément ce que je... Non, je ne serais pas allé sur Netflix, peut-être.
Bon,
pas.
Ben vous vous êtes fait plein d'amis aujourd'hui, tous les deux. Iban Rice, journaliste, vous avez publié La fabrique des élites des rails, tout à fait, à la télé. Et vous vous montrez dans votre livre la majorité, hein, non pas la révolution silencieuse de la minorité, mais la majorité qui n'aspire pas du tout à la même chose.
Ah, j'ai quand même deux chapitres sur ces minorités, qui sont des étudiantes, pour la plupart, et qui en ont marre, en fait, et qui se disent qu'il faut protéger les futures promotions, et il faut que tout ça cesse. Voilà ce que je montre.
Eh bien, merci en tout cas à tous les deux d'être passés en direct chez 7 milliards de voisins sur RFI. Dans quelques instants, la chronique du psychologue Ibrahim Haïdara à Bamako, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est un thème d'actualité. Comment couper le cordon entre les parents et les enfants ?
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Nous retrouvons la chronique du psychologue Ibrahim Haïdara. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes psychologue à Bamako et aujourd'hui on parle du cordon. Il faut savoir couper le cordon et en même temps garder le lien avec ses parents quand on est un enfant devenu adulte. C'est vrai qu'on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes adultes qui continuent de vivre chez leurs parents parce qu'ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas pour certains le droit d'aller louer un appartement, c'est le cas surtout des filles, même quand elles ont un travail. Alors comment vivre avec un tel sentiment ? Vous parlez pour le Mali, vous parlez pour les pays sahéliens et pour d'autres.
Eh bien, il faut d'abord se dire qu'il y a trop d'interdits, trop de pression sur nos enfants, même quand ils sont grands, quel que soit leur âge. Surtout quand ils vivent sous le toit de leurs propres parents. Ils sont considérés comme des enfants. On les rappelle tous les jours qu'ils ne sont pas encore grands, ou ont peu de pouvoir décisionnel. Et aux yeux de ses parents, c'est parfois une attitude de ne pas vouloir libérer son enfant, le laisser grandir, dirais-je, le responsabiliser dans sa propre famille et plus tard dans sa vie future, la vie professionnelle comme la vie privée. Et c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de garçons qui ont peur de décider ou d'entreprendre certaines choses sans demander ou avoir l'aval de leur père ou de leur mère.
Oui, alors qu'ils travaillent, alors qu'ils sont émancipés, jeunes adultes.
Tout à fait. C'est parce que le contexte fait qu'ils n'ont pas assez de pouvoir décisionnel. Et à un moment de la vie, il faut s'assumer. Il faut savoir que le parcours de ses parents n'est pas le même que celui que nous empruntons, nous les enfants. Ouais. Évident pour ces fameux Tanguy.
Oui, les fameux Tanguy en référence au film. On sait que les traditions pèsent sur certains enfants qui sont devenus jeunes adultes, notamment dans des sociétés traditionnelles au Sahel. Alors comment grandir en étant responsable dans son foyer quand on se marie jeune, sans pour autant être toujours en train d'attendre l'avis de ses parents, pour ceux qui ont quitté la maison familiale? Comment ne pas être frustré aussi quand on est le conjoint de celui qui attend l'avis des parents?
C'est frustrant, mais il ne faut pas croire au fait que c'est parce que l'on vit chez ses parents qu'on est un enfant et que l'on reste éternellement cet enfant, même si on reste limité sur plusieurs choses en termes de liberté. Ça, c'est le cas du Mali. Ne nous disons jamais que si on fait des erreurs, c'est parce que nos parents ont été à l'initiative de certaines décisions. Il faut qu'on s'assume, en quelque sorte. Nous sommes responsables, et ce, pour toujours. Quand on est jeune marié, on doit, à un moment, ne pas dire le temps, penser aux conséquences sur son foyer, sa vie ou ses futurs descendants. C'est très important.
Mais alors, comment et pourquoi Ibrahim Haïdara gardait aujourd'hui le lien avec ses parents, si vous dites qu'il faut absolument prendre ses responsabilités, se détacher, couper le cordon?
Oui, on doit couper le cordon, mais on doit garder aussi un lien très fort avec les parents. Les adolescents et les jeunes adultes au Mali, ils doivent avoir un minimum de connaissances de leurs valeurs ancestrales et de leur histoire familiale. Se connaître, savoir d'où on vient. On doit se dire qu'on est issu d'un environnement familial qui exerce d'une façon ou d'une autre une pression qui nous influencera à vie. Toutefois, ils ne doivent pas être éternellement dans l'imitation. C'est pourquoi qu'il faut couper le cordon. Ça permet de grandir et d'avoir un idéal et sa propre vision du monde. Et il faudrait, ce que je pourrais rajouter, que certains parents comprennent qu'il y a des enfants qui ne vont pas forcément les imiter, les suivre, leur ressembler, sur le plan culturel, religieux ou même professionnel. Ils ne vont pas forcément faire la même chose que papa et maman.
Alors, quel conseil vous donnez à ces jeunes adultes trop dépendants de leurs parents?
Eh bien, ces jeunes adultes trop dépendants, il faut penser à grandir et à prendre ses responsabilités. Donc, adultes, prenez vos responsabilités, car il en sera de votre avenir en termes de maturité émotionnelle. C'est très important. Cherchez surtout les bons conseils et adaptez-les en fonction des réalités, des situations que vous allez vivre au quotidien, qui sont totalement différentes des situations de nos parents. Échangez plus ouvertement avec les parents qui vous accusent d'être parfois rebelles. Expliquez-leur vos prises de décision, mais, je dirais bien, dans la courtoisie et l'envie d'être de bons descendants qui feront la fierté des parents.
Et bien voilà, c'était la chronique d'Ibrahim Haïdara pour apprendre à couper le cordon à l'âge adulte. Vos questions, bien sûr, les voisins et les voisines, n'hésitez pas, 33 7 64 45 51 41, si vous avez un problème avec un de vos enfants dans la famille. Et bien sûr, toutes les chroniques sont à réécouter en podcast, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, sur toutes les plateformes de téléchargement. À très bientôt, Ibrahim Haïdara.
À très bientôt, Emmanuel Bastide.
Demain, 7 milliards de voisins, dernier jour de la semaine, avec cette question: la pandémie a-t-elle changé les façons de s'habiller ? en ville, au travail. On parlera mode donc. Talons et cravates vont-ils disparaître? Vous aurez rendez-vous avec notre partenaire, le magazine Brune, Marie-Jeanne Serbin-Thomas. À demain les voisins et les voisines.
Tous les jours, Accent d'Europe.